Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h41 sur France Inter. Soyez bienvenus dans un nouveau...
Vous êtes en direct, allez-y.
Je me suis longtemps interrogée sur la raison mystérieuse de mon entêtement à vouloir qu'on me reconnaisse comme écrivain. Admet Jean Rouault qui ose aujourd'hui un retour à sa préhistoire littéraire. Au temps d'une conquête poétique qui avait nécessité de quitter son pays pour venir à Paris. Au temps où Jean Rouault fut marchand de journaux, ce à quoi d'ailleurs des années durant la presse le renvoya. Le kiosquier qui a gagné le prix Goncourt. Que ce métier de rue lui a-t-il appris ? Qu'à travers les gros titres, le monde entier se déverse dans un kiosque. Mais que sans les lecteurs et les passants, l'actualité n'aurait ni chair ni histoire. C'est cela qui se joue au comptoir. On bavarde de tout et de soi, du lointain et du quartier, de l'actu et du passé, à l'oreille d'un aspirant écrivain anxieux et solitaire qui, sans se douter, lui aussi fait le chemin à l'envers.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Nouvel attentat sanglant en plein Paris. Une bombe jetée d'une voiture devant le magasin Tati vers 17h30 cet après-midi a fait au moins 5 morts, une cinquantaine de blessés, dont 11 sont grièvement touchés.
Dans le sida, c'est cette maladie terrible due à un virus presque toujours mortel qui a déjà fait de nombreuses victimes et qu'on n'arrive pas pour l'instant ni à soigner ni à prévenir.
Même si on sait aujourd'hui que le sida ne se transmet que très rarement par le sang, dans quelques cas sur 100 seulement, ce dépistage permettra d'éviter toute diffusion de la maladie lors des transfusions.
L'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. J'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Enfin, de l'intérieur de sa papa mobile, Jean-Paul II va bénir tous les fidèles, amassés sur la distance qui sépare la grotte de la grande prairie.
Voilà qui rappelle nombre de une à Jean Rouault, mon invité. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est toute une époque qui traversa votre kiosque de 1983 à 1990, c'est-à-dire quasi à la veille de l'annonce de votre prix Goncourt reçu pour les Champs d'honneur. Le kiosque du 101 rue de Fiandre, de Flandre dans le 19e arrondissement, n'existe plus que dans vos lignes. Ces lignes, vous les avez intitulées tout simplement kiosque et elles paraissent aujourd'hui chez Grasset. Alors, ironie de l'histoire. C'est dans un journal qu'il a sans doute lui-même longtemps distribué et vendu que vous redécouvrez le kiosquier, le propriétaire du kiosque, P.
Oui, c'était... Alors, il y avait sa photo, donc ce n'était simple de le reconnaître. Ouais. Et puis, c'était étonnant de le voir à cette place-là, c'est-à-dire qu'en représentant de la profession... alors qu'il avait un passé d'anarchiste très 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 marqué.
Oui.
Et donc de l'imaginer comme ça en leader et de s'opposer à des mesures qui n'aurait évidemment pas accepté il y a 20 ou 30 ans, comme par exemple de dénoncer les blocages de la vente des journaux par la CGT.
Livre.
Alors que.
Mais dont les grèves ont tué les marchands de journaux, on le sait bien en même temps.
Ça a été tout ça, évidemment, oui. Plein de choses. Et alors que quand on vendait les journaux, quand les journaux, la CGT du Livre faisait grève, quand on n'avait rien à vendre, il n'était pas question
de s'en prendre au syndicat.
Et on défendait donc les syndicats devant les acheteurs qui repartaient les mains vides, ouais. Les râlaient.
Les lecteurs du Monde, pour voilà. Qui à l'époque c'était encore une drogue que de passer au kiosque, c'est ce que vous racontez, P, ce kiosquier dont vous ne donnez pas le nom, mais simplement l'initiale, un montagnard d'une grande résistance physique, et il en fallait, qui se vivait toujours comme un exploité, un homme marqué par la mort tragique de sa femme gisant sur le trottoir, tombé de 3 étages, et vous avez cette phrase très belle, en écartant la barrière des badauds pour découvrir la raison de ce rassemblement, le corps disloqué de son amour. Voilà l'hommage que vous rendez à cet homme. Vous le décrivez, ce métier, Jean Rouault, et vous le décrivez, notamment le froid.
Mais c'est, quand j'entendais la liste des événements, ouais, là, comme ouais. Ça, je me disais qu'au fond, moi, ce que je retiens, c'est effectivement, outre les gens, comme ça, ce flux de personnes qui venaient au kiosque et avec lesquelles, forcément, on pour les plus sympathiques et pour celles avec qui on avait affinité, avec lesquels on établissait un rapport d'amitié, oui. Parce que un quotidien, comme son nom l'indique, c'est tous les jours, donc oui. Les gens, vous les voyez tous les jours, toutes les semaines pour un hebdomadaire, etc. Oui. Et donc, avec le temps, c'est 7 ans, c'est long. Et de ce temps-là, ce que je retiens, c'est les conditions effectivement climatiques, c'est-à-dire le froid, qui était absolument insupportable pour moi. Et quand vous disiez dans votre introduction là, qui était très très juste, à la limite j'aurais pu partir après.
Non. non.
C'est que par exemple ce retour vers mon enfance, c'est par la pluie. Je me souviens que j'ai entendu la pluie tomber sur le kiosque et que j'ai revenu à quel point la pluie était un environnement de mon enfance dans la région nantaise comme ça, ouais. et qu'au fond, c'était tellement naturel que j'y faisais pas attention. Et là, j'ai écouté tomber la pluie sur le toit du kiosque de la rue Flandre. Et les pages sur la pluie dans les champs d'honneur viennent non pas bien sûr de mon enfance, mais viennent de cette prise de conscience du rôle qu'avait joué la pluie.
Mais plus que ça, puisque votre mère vous avait dit tout ce que vous voulez, sauf le commerce. Et ce faisant, c'est-à-dire dans ces années de marchand de journaux, vous revivez et vous comprenez la solitude de votre mère, son dévouement au magasin familial. Elle l'avait, dites-vous, transformé en scène du monde.
En fait, c'était assez ironique parce que j'avais fait des études de lettres et simplement je voulais pas faire enseignant. Avant, j'ai fait un bac C et je voulais pas faire d'études scientifiques. Donc, donc comme suicide social, c'était parfait. Mmh. Et simplement, il faut vivre. Et à mesure que je m'enfonçais dans ce projet d'écriture, je voyais que c'était pas compatible avec d'autres activités. Mmh. J'avais à un moment été journaliste dans les journaux de Nantes et puis, en pensant pouvoir combiner un peu tout comme ça, et puis je me suis aperçu que cette écriture journalistique parasitait mon écriture. C'était pas la même, enfin, vous le savez, c'est pas la même chose. Et donc, pour ça, j'avais pas d'autre solution que de tout arrêter. Et alors, donc, j'ai trouvé ce travail au kiosque, alors qu'avant j'avais travaillé en librairie, mais ça me prenait pareil, trop de temps.
Mais finalement, ce kiosque.
Et je me suis retrouvé effectivement à faire à braver l'interdit maternel, voilà. Puisque je me retrouvais à vendre. Et en même temps, je savais le commerce. Moi, depuis tout petit, avec mes sœurs, on était habitués à dire bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez.
Et puis finalement, c'était assez familier pour vous ce jeu de rôle, ce petit théâtre. Alors là, oui. C'est un théâtre qui est à même la rue. C'était pas comme le magasin de votre mère. C'est un théâtre qui est à même le rue, qui est plein de joutes quotidiennes. De joutes sans conséquence, écrivez-vous, contrepoint à la solitude de certains, évidemment, chambre d'écho de toutes les controverses qui agitent un pays. Par exemple, la pyramide du Louvre. Pourtant, la pyramide du Louvre, ça se passait loin du kiosque, ça se passait dans les beaux quartiers dont finalement les quartiers populaires se sentent exclus.
J'aime beaucoup l'audace dans l'ensemble, le courage de l'audace. C'est très normal que ça soulève les passions. Je suis pour une recherche nouvelle et une étude nouvelle des choses. Nous partons vers l'an 2000.
Ça va pas du tout dans le décor, je pense. Hein. C'est trop futuriste.
Il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Qu'est-ce que vous voulez pour vivre son temps?
Je m'attendais à être davantage choqué par ça.
Quand elle va être sale, ça va être horrible. Et elle sera en France. Malheureusement, c'est souvent sale.
Moi, j'aime ça beaucoup. Quand elle va être sale, ça va être horrible. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ce petit théâtre, dites-vous, Jean Rouault, m'a donné un rôle et c'est un somptueux cadeau. Quelque part entre Crimée et Place de Clichy, on s'intéressait à ce que je racontais.
Et ça a été la grande découverte, c'est-à-dire que les gens venaient. En fait, j'ai découvert ça très très tard. Ça faisait longtemps que j'étais là à parler et à les écouter. Ils venaient pour moi, et c'est la chose la plus bouleversante que j'ai entendue sur le kiosque. C'était il y a pas longtemps, peut-être 3 ans, dans des rencontres comme ça, une femme vient vers moi. Elle se présente comme étant une ancienne cliente du kiosque et tout. Alors parfois je les reconnais, parfois pas parce que le temps passe. Et elle me dit, juste en partant comme ça, presque à demi-mot, mais vous savez, c'était pour vous qu'on venait. Ouais. Et ça m'a, mais je me serais liquéfié sur place.
Parce qu'on sent dans ce livre que pour s'apprendre soi, il faut apprendre un peu des autres, et même beaucoup des autres.
Mais c'est-à-dire que j'ai découvert aussi un truc au bout d'un moment, c'est que j'écoutais beaucoup les autres. Je leur posais des questions, ça m'intéressait. Ils venaient de partout, ils venaient du monde entier. Oui. Donc j'avais des nouvelles du monde entier. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que les gens qui parlaient en connaissance de cause en savaient beaucoup plus long que la presse. Et leur jugement était beaucoup plus juste.
Mais ça c'est magnifique ce que vous racontez là-dessus, parce que il y a un très beau chapitre sur la guerre. La guerre comme horizon de nous tous, comme mémoire de nous tous, même si pour nous tous ce n'est pas la même guerre. Et ça, vous le racontez formidablement bien.
Je me souviens, c'était un petit Chinois, parce qu'il était, il était petit, il avait un restaurant à Neuilly, et puis ça a fait faillite, donc il est redevenu serveur dans un restaurant. Ouais. Et on parle, et il me dit, c'était avant la guerre. Et c'était au début du kiosque, donc j'avais pas... J'apprenais. Ouais. Et je le regarde, avant la guerre, pour moi la guerre, c'était évidemment la Seconde Guerre mondiale. Je dis, avant la guerre, non, ça colle pas, c'est pas possible. Ouais. C'est,
de quelle guerre?
Et c'était la guerre du Vietnam. Et c'était, ça faisait partie de ces boat people, de ces Chinois qui étaient partis là, sur des barques de fortune.
Je vous cite Jean Rouault, par la grâce du kiosque, par ce lieu dévolu à l'actualité, les gens s'offraient de donner chair à cette histoire. Ils étaient ce char lourd de la mémoire du monde dont la presse ne voulait pas s'encombrer. Par ces reliquats de souffrance, le kiosque transformait ainsi l'éphémère en durée.
Ouais, j'ai vu des pieds noirs, par exemple, pleurer devant le kiosque à l'évocation de leur départ, comme ça, sur le tarmac ou dans son bateau, en filant en plein mois de juin, toute une garde-robe, parce qu'ils avaient le droit qu'à une valise, des choses comme ça. Il y avait aussi les Libanais qui remettaient systématiquement en cause les versions qu'on pouvait lire dans Le Monde, etc., qui haussaient les épaules d'un air de dire « mais de quoi ils parlent ?» Vous voyez, c'était extraordinaire.
Et vous dites carrément la guerre en Yougoslavie a commencé devant notre kiosque.
Oui, parce qu'on recevait les journaux. Nous, c'était les journaux yougoslaves, donc pour nous, c'était les Yougos, quoi. Oui. Sauf qu'on avait bien remarqué qu'il y en avait qui étaient en cyrillique et d'autres en caractère latin, donc on ne les mettait pas ensemble, bien sûr, à côté, mais pas, on ne mélangeait pas. En fait, on les vendait surtout le mardi, parce que c'était le journal du lundi, et dans le journal du lundi, il y avait les résultats des matchs de foot. Donc, ce qui intéressait les Yougos, c'était juste les résultats des matchs de foot, le reste, on n'avait rien à faire. Mais, quand il n'y avait plus de journaux
en cyrillique... Le Dynamo Zagreb contre l'Étoile de Belgrade.
Absolument. Et là, on a compris qu'il ne fallait pas plaisanter sur le sujet, et devant le kiosque, ils s'évitaient. Vous voyez, c'était très étrange, parce que pour nous, c'était les Yougos.
Il faudrait que vous nous le décriviez, ce kiosque qui n'existe plus. Aux premières lignes de son évocation, moi qui suis parisienne, je l'ai reconnu. Vous avez inauguré un kiosque pionnier, mais j'en ai vu beaucoup quand j'étais petite, des kiosques comme ça. Décrivez-le architecturalement, parce que il en découle toute une réflexion sur la modernité architecturale qui est clé dans ce roman.
Il en reste encore ou pas ?
Probablement.
De rester. Non, c'était un kiosque qui se voulait effectivement la figure de la modernité, parce que le kiosque ancien, c'était le kiosque verdâtre là, issu de qui venait de Toulouse-Lautrec. Enfin, voilà. C'était ça. C'était le kiosque d'un Américain à Paris. Quoi.
Voilà.
Et donc,
c'était le Paris du 19e.
Il y avait le complexe de la modernité de la France, qui voulait se précipiter comme ça dans une modernité, donner une autre image de Paris que celle de ce Paris de Toulouse-Lautrec, et donc un kiosque qui s'inspire clairement de Beaubourg, c'est-à-dire le Beaubourg était l'hypermodernité avec ses tuyaux, etc. Et là, c'était entre Beaubourg et l'atomium de Bruxelles, c'est-à-dire que c'était un kiosque qui était tout sauf pratique, tout sauf confortable, et j'avais appris au moment de sa conception, qu'il s'était posé la question de savoir s'il mettait des toilettes dans le kiosque, du chauffage. Et les ingénieurs et les architectes, etc., avaient dit non, évidemment. Non,
surtout pas.
Pas poussé, quand même. et donc, il était mal foutu et tout. Mais on voyait bien que ça se voulait l'image de la modernité. C'est la presse qui basculait dans le 21e siècle. On sait comment elle a basculé.
Exactement. Et vous dites d'ailleurs, la marque un peu surannée de certaines modernités, obsession larmoyante d'être de son temps. Quand je dis que c'est un fil rouge de ce texte, Jean Rouault, il faut que vous nous parliez de Roland Barthes, de cette trahison faite aux oukases et aux grands dogmes de l'époque, du moment où il a dit tout à coup « il m'est devenu indifférent d'être moderne ». Est-ce que ça a été pour vous cette question de la modernité.
Bien sûr, parce que moi, j'ai fait une étude littéraire dans les années 70, début 70, et c'était, on en passait que pour la modernité. Tout le reste, c'était ringard, bourgeois, fasciste, etc. Je parle de la littérature. Oui. Et donc, il y avait la figure, évidemment, de la modernité, le chant de la modernité, littérairement parlant, et même un peu au-delà, c'était Barthes. Et il avait annoncé la mort de l'auteur, la syntaxe était fasciste, enfin, quelque chose d'une énormité dingue. Et puis, il fait son cours inaugural au Collège de France, et il dit, en fait, faut vous dire une chose, je suis à la moitié de ma vie, il dit, c'est pas, il cite Dante, parce que, évidemment, il va pas citer Spirou. Et il dit, tout ce que j'ai fait dans la première moitié de ma vie, des préfaces, des trucs sur ci et ça, j'en veux plus, ça m'intéresse pas. En fait, il faut que je vous dise une chose, c'est je veux être romancier, je veux être Proust, je veux raconter des histoires. Et alors qu'avant il avait annoncé dans la mort de l'auteur, il avait annoncé le sacre du lecteur. C'était le lecteur qui était le vrai auteur du livre. C'était à lui, quoi. Lui était lecteur et était lecteur critique privilégié. Et donc il était le vrai auteur. Puis à un moment il a dû se dire, oui, bon, enfin quand même, il y a peut-être une supercherie dans le...
Et voilà quelque chose, Jean Rouault, que vous écrivez beaucoup plus loin dans le livre, au moment de l'écriture des chants d'honneur, dont vous faites l'archéologie et dont vous racontez la genèse. Il y a même un chapitre qui se clôt par cette phrase, poétiquement, tout part de là. Les chants d'honneur, votre livre des morts, en se bouchant les oreilles à la cire pour ne pas entendre l'injonction des modernes pontifiants.
Parce que c'était pour rendre compte de mon enfance, c'est-à-dire du milieu de mon enfance, socialement, oui. C'est le milieu rural, c'est les petits commerçants, c'est des gens qui avaient été en fait assez c'était un milieu en fait assez favorisé avant la guerre, et puis tout s'est écroulé évidemment après la guerre, etc. Mais moi je n'ai connu que le côté écroulé, quoi. Et pour rendre compte aussi de tous ces gens, il y a une chose qui m'avait agacé quand on parlait des petites gens à propos des chants d'honneur. J'ai dit, merde, mais au nom de quoi ils sont petits quand vous voyez les soi-disant puissants qui sont cons comme des balais? Enfin, franchement, je vois pas en quoi ces gens-là, ou comme ceux du kiosque, qui étaient d'une inventivité qui me faisait rire.
Qui s'appelait Norbert, Rému Lassyrien, l'Andalou, Jean Robert, Mehmet, Chirac. Il y en avait même un qui s'appelait Chirac dans les petites gens du kiosque.
Oui, parce qu'il désespérait d'avoir un studio par la ville de Paris, et donc il distribuait tous les tracts du RPR comme ça pour avoir son studio, et ça ne marchait pas. Tous les jours il allait à la permanence et puis il n'y avait rien pour lui. Et donc c'était cette humanité-là qui était beaucoup plus riche. Vous savez, il y a une phrase de La Bruyère qui dit « Faut-il opter? Je ne balance pas, je veux être peuple. » Et balancer entre, évidemment, la cour et le peuple. Mais j'ai définitivement choisi mon camp aussi.
Merci beaucoup. Jean Rouault, si vous lisez Kiosque, qui paraît aux éditions Grasset, vous comprendrez comment un kiosque aujourd'hui disparu, 101 rue de Flandre, permet de revenir sur les traces du pays nantais et sur les traces de l'enfance. Merci d'être venu dans l'Instant
M. Merci à vous.
C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebelli.
Bonjour, j'aimerais saluer Mounji, le kiosquier, mon kiosquier de la station Marx-Dormois à Paris. Formidable kiosquier Mounji, je te salue.
Nous
voilà,
aussi.
C'est fait.